Nous allons entendre ce matin deux lectures. La première se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47, les versets 1 à 10. Le livre du prophète Ézéchiel est un livre foisonnant, riche d'images, de visions, d'allégories, d'actions et de gestes symboliques. On suit pas à pas le prophète qui va dans un premier temps prononcer des oracles de jugement contre Jérusalem, puis dans un deuxième temps des oracles de restauration de Jérusalem et du royaume d'Israël. Jugement, puis réhabilitation. Pourquoi une césure aussi nette? Car le ministère du prophète se déroule au moment de l'exil et il propose une réflexion sur ses causes et sur l'identité de la communauté post-exilique. Pour Ézéchiel, cette catastrophe a eu lieu parce que le peuple était devenu infidèle à Dieu. Le prophète insiste sur la responsabilité personnelle de chacun et il appelle à la conversion. C'est le but de ces oracles de jugement dans la première partie du livre. Mais Ézéchiel a aussi pour mission d'éclairer le peuple afin qu'il ne commette plus les mêmes erreurs et de lui redonner espérance au moment où, en exil, il se pense sans avenir. D'où les oracles de restauration du peuple et du pays dans la seconde partie du livre. C'est là précisément que se situe le récit que nous allons entendre. Ézéchiel raconte une série de visions où il décrit le nouveau temple, les droits et les devoirs du prince et les nouvelles frontières du pays. Au chapitre 47, le prophète est guidé dans sa vision par un homme qui lui fait faire le tour d'un temple nouveau. Un temple idéal où Ézéchiel découvre un courant d'eau. Écoutons. L'homme me ramena à l'entrée du temple. Je vis alors que de l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est. La façade du temple était en effet orientée à l'est. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le porche nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au porche oriental. L'eau s'écoulait au sud de ce porche. Il s'avança vers l'est. Il tenait un cordeau à la main avec lequel il compta 1000 mesures dans cette direction. Il me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Il compta encore 1000 mesures et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Au bout des 1000 mesures suivantes, il me fit à nouveau traverser l'eau. Cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il compta encore 1000 mesures, mais je ne pouvais plus traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était devenu un torrent infranchissable. Il me dit, « As-tu bien regardé, toi, fils d'Adam ?» Il m'emmena un moment à l'écart, puis me ramena au bord du torrent. Je constatais alors qu'il y avait de très nombreux arbres sur la rive. L'homme me dit, « Ce torrent se dirige vers l'est du pays, il descend la vallée du Jourdain, il débouche dans la mer morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Il assainira la mer, et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. Alors, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, partout où il y aura des pêcheurs qui mettront leurs filets à sécher sur les bords de la mer. On y trouvera un aussi grand nombre d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. Cependant, les marais et les lagunes de son littoral ne seront pas assainies. On les gardera comme réserve de sel. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais et ils produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte car ils sont arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. La deuxième lecture que je vous propose ce matin se trouve dans le livre des Actes. Le livre des Actes des apôtres, attribué au même auteur que l'évangile de Luc. Acte 10, donc, les versets 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte appelé l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et priait Dieu constamment. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpeller. Corneille. Corneille le fixa du regard et, saisi de crainte, il répondit : Qu'y a-t-il, Seigneur ? Tes prières et tes largesses sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, qui est tanneur, et dont la maison est au bord de la mer. Dès que fut disparu l'ange qui venait de lui parler, Corneille appela 2 des gens de sa maison, ainsi qu'un soldat d'une grande piété, depuis longtemps sous ses ordres. Il leur donna tous les renseignements voulus et les envoya à Joppé. Je vous invite à vous lever pour chanter dans Louange et prière le cantique 193. Les strophes 1, 2 et 3 parlent par le Seigneur, ton serviteur écoute. Prions. Source jaillie de l'amour de Dieu, fontaine où murmure la vie, qui transforme nos déserts en oasis et abreuve nos terres arides de sa parole. Souffle insaisissable, porteur d'éternité, vent de Dieu venu de Galilée, qui s'insinue dans la faille de nos hésitations et nous engendre à la liberté. Brise incandescente de confiance, qui éclaire nos dédales de sa présence et consume nos divisions. Esprit de Dieu, viens éclairer notre intelligence et ouvrir notre cœur. Amen. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien, écrivait Helene Keller, essayiste et militante politique américaine. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Une affirmation à l'image de la vie de celle qui, à l'aube du XXe siècle, a su briser l'isolement du handicap. Une maladie l'avait laissée sourde et aveugle et est parvenue à communiquer, puis à obtenir un diplôme universitaire et enfin à s'engager en faveur de ses convictions féministes et pacifistes. De l'audace, il en est question ce matin dans les deux récits que nous venons d'entendre. Audace d'une parole qui jaillit et qui, telle une source, s'échappe d'un bâtiment aux proportions certes parfaites, mais qui ne peut et ne doit la retenir. Audace d'une rencontre à venir entre deux hommes, Pierre et Corneille, que beaucoup séparaient. Lors des oracles de jugement, le prophète Ézéchiel a proclamé que la gloire du Seigneur a quitté le temple de Jérusalem. La gloire du Seigneur, c'est ce qui est possible à l'être humain de percevoir de Dieu quand il se manifeste. Le temple est vide, il n'est plus habité de la présence de Dieu, explique le prophète dans la première partie du livre. Liberté d'un Dieu qui n'est lié ni à un édifice, ni à une terre, ni même à un peuple. Dieu s'absente de ce qui était perçu jusque-là comme le lieu central du culte qui lui était rendu. Le centre est vide. L'absence n'est pas l'abandon, mais l'appel à la construction d'un ordre nouveau, l'appel à une fidélité nouvelle et une manière différente de pratiquer la religion. Cet appel résonne à travers les paroles du prophète qui prêche un Dieu qui rejoint son peuple, même en exil. Si la présence de Dieu n'est pas liée à un édifice, Dieu est partout, où on le prie avec sincérité, partout où l'on écoute sa parole et où on la met en pratique, partout où l'on garde un temps pour lui, même en terre étrangère. Voilà qui va tout bouleverser. Voilà qui est source de réconfort et d'espérance pour celles et ceux qui sont loin de chez eux. Et Ézéchiel prêche le Dieu de grâce, qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu avec, celui qui accompagne au cœur de l'épreuve pour la faire traverser. Écoutez, dit le prophète, regardez ce qui m'est donné à voir, ce temple tout neuf, qui ne sera plus celui que vous avez connu. Il en décrit minutieusement les contours à travers ses visions. Sommes-nous revenus au point de départ? L'espérance pour les exilés réside-t-elle dans le retour du même? La vie avec Dieu est-elle confinée dans ce bâtiment majestueux dont Ézéchiel a la vision? Non. Non, car il y a la source. Cette source, symbole de la parole de Dieu qui s'écoule, s'échappe du temple pour purifier et rendre la vie possible. Cette source qui fait fleurir le désert, procure de la nourriture en abondance et même guérit grâce aux feuilles des arbres fruitiers. Cette source abreuve également chacune de nos terres intérieures. La parole crée en nous quelque chose de neuf. Elle agit et fait agir. Elle est faite pour grandir et faire grandir. Elle est faite pour être partagée. Invitation à l'audace de l'engagement et du témoignage. Auparavant, on montait au temple pour recevoir les bienfaits du Seigneur. Désormais, la vie que la parole de Dieu fait surgir rejoint également le pays et ses habitants dans leur environnement quotidien. La source jaillit et elle dispense la vie. Des canaux bien tracés de nos rituels et de nos habitudes, elle s'échappe toujours. Il nous arrive de désirer que nos vies de foi ou que nos églises ressemblent à un temple aux proportions parfaites, où tout serait cadré, maîtrisé, où nous aurions la certitude de trouver la présence de Dieu selon nos désirs et où nous pourrions discourir sur Dieu. Mais l'eau, alors, serait stagnante et le danger du repli sur soi à nos portes. Le prophète Ézéchiel et Jésus lui-même nous parlent d'une eau vive, c'est-à-dire d'une eau qui porte la vie, une eau qui se répand dans le monde et qui lutte contre les forces de stérilité, d'intolérance et de mort qui sont à l'œuvre. Car quand l'Évangile file, il transgresse les frontières, toutes les frontières, géographiques et physiques, religieuses et sociales, et même nos frontières intérieures, provoquant des retournements qui deviennent parfois de véritables conversions du regard et du cœur. Corneille, puis Pierre vont en faire l'expérience. Il leur faudra de l'audace pour avoir le courage de la transgression. Arrêtons-nous un instant sur cette notion. Le langage courant enferme la transgression dans l'ordre de la violation des lois ou des commandements. Pourtant, ces ressources sémantiques et symboliques ouvrent d'autres horizons. Transgresser, c'est aussi, étymologiquement, traverser, explorer, franchir, dépassé. La transgression évoque la volonté de connaître, le courage de refuser de se soumettre. L'éloge de la transgression, c'est le titre d'une œuvre du sculpteur Philippe Ramette que vous avez reçu. On peut y voir une jeune fille en bronze en train de se hisser au sommet d'un socle en pierre. Cette œuvre a été pensée en lien avec le combat des femmes indiennes qui luttent quotidiennement pour la reconnaissance de leurs droits. Cette petite fille enfreint les règles et les contraintes définies par le périmètre et escalade ce socle pour aller s'installer elle-même, se hissant avec la légèreté d'une ombre au rang des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Inde. L'œuvre de Philippe Ramette ne manque ni de poésie ni d'humour. Cet éloge de la transgression est installé désormais dans le très rectiligne Square Cambronne à Nantes, où trône une statue tout aussi droite du général du même nom. En l'observant, nous pouvons être saisis par un léger sentiment d'insubordination. Cette fillette est-elle au fond en train de grimper sur son socle ou de s'en échapper? Est-elle en train de s'installer? Est-elle en train de filer? Elle est en tout cas dans le mouvement, sortant du cadre socle. Le choix très classique des matériaux contraste avec le choix plus subversif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette statue en mouvement qui entre dans le cadre du spectateur et l'oblige lui aussi à bouger pour ne pas se heurter à l'œuvre même? À côté, la statue d'un homme en costume, le regard tourné vers l'horizon. Elle s'intitule « L'éloge du pas de côté ». Seul un pied repose sur le socle, l'autre s'en échappe. Un hommage à l'écart, à l'audace, au léger déséquilibre nécessaire à la marche. Deux œuvres en résonance avec le récit du livre des Actes qui évoque les débuts d'un moment décisif de l'histoire du christianisme. Le temps est venu d'ouvrir largement les portes, d'aller au-delà des cercles de convertis du judaïsme. L'Évangile n'est pas réservé à quelques-uns, il déborde du cadre, il jaillit de son socle initial. Témoignant ainsi d'un Dieu universel, un Dieu qui se donne à toute personne qui accepte de le recevoir, sans regarder à ses origines, à ses talents, à son genre ou à sa position sociale. Un Dieu pour tous, pour toutes, qui fait fi des barrières que nous érigeons patiemment entre nous. N'est-ce pas éminemment transgressif tout cet amour à l'heure où tout se revendique? Toute cette gratuité à l'heure où tout se paye. Les choses donc ne vont pas aller de soi. Nous tenons à nos barrières. Elles sont sociales quand elles imposent de n'entretenir des relations qu'avec des gens du même milieu ou de la même origine. Elles sont idéologiques quand elle privilégie l'intérêt d'un parti, d'une école, au détriment du sens ou du bien commun. Elles sont religieuses quand elles régulent le pur et l'impur et désignent le fanatisme comme une réalité systématiquement extérieure, sans voir les ambiguïtés de son propre récit. Le livre des Actes commence par une description d'une sorte d'âge d'or de la vie de la première communauté chrétienne à Jérusalem, rapidement troublée par une série de tensions entre juifs et chrétiens, qui provoquent un essaimage hors de la ville et hors de la Judée. Nous venons d'entendre le début d'un récit qui, après diverses péripéties, la vision de Corneille, l'extase de Pierre, l'intervention de l'Esprit-Saint, aboutira pour la première fois au baptême d'un païen. L'évangile court, l'évangile déborde, Dieu n'appartient à personne mais s'offre à tous. Mais nous tenons à nos barrières. Nous tenons à nos définitions de Dieu, de la bonne pratique, de la morale correcte, de ce qui se fait ou ne se fait pas. Dieu doit s'arc-bouter, multiplier ses efforts pour convaincre son Église de ce qu'il n'est plus un Dieu national, un Dieu d'exclusivité. L'histoire de Corneille et de sa rencontre avec Pierre montre que Dieu ne va pas simplement passer nos barrières, son évangile va transgresser nos frontières. Nous avons un portrait très précis de Corneille, un centurion de la cohorte nommé l'Italique, c'est-à-dire un officier de l'armée romaine qui commande une troupe de 100 hommes. S'il est romain, c'est qu'il est aussi païen et donc pas destiné à pratiquer la religion juive, puisque travailler dans l'armée était incompatible avec la loi juive. C'est un homme pieux, ce qui signifie qu'il a une attitude respectueuse envers le monde divin et qu'il déjoue le préjugé qui voulait que les païens soient des impies. Corneille est également, avec toute sa maisonnée, un craignant Dieu, c'est-à-dire un païen qui fréquentait la synagogue dans un groupe distinct du judaïsme, car il n'avait pas fait le pas de la conversion. Par leurs offrandes, les craignants Dieu concrétisaient leurs liens sociaux avec la communauté juive. Il est dit de Corneille qu'il comblait de largesse le peuple juif. C'est non seulement la générosité de Corneille qui est mise en avant, générosité qui est une œuvre importante de la piété juive, mais aussi la destination de cette générosité, le peuple d'Israël. Enfin, Corneille est un homme très spirituel, un homme qui prie continuellement. L'auteur du livre des Actes a moins voulu dresser le portrait d'un païen méritoire que d'un quasi-juif. En dehors de son appartenance à l'armée, tous les autres qualificatifs le désignent comme le prototype du juste, du croyant idéal. Ce n'est pas un autre tellement méritant qu'il en devient presque comme nous. C'est un homme tout aussi méritant que nous aux yeux de Dieu, mais qui est autre. Et Dieu s'adresse à l'autre comme à nous. Dans le portrait même de Corneille, qui est à la fois païen et revêtu des qualités du croyant juif, se dessine déjà la dissolution des frontières qui voulait qu'il y ait une différence dans l'accès à Dieu entre juifs et non-juifs. Nous prions un Dieu dont le souffle nous amène à reconnaître que certaines de nos barrières n'ont aucun sens, car il dispense à chacun, à chacune, un même amour. Le portrait du croyant exemplaire qu'est Corneille se poursuit. Alors qu'il prie, il a une vision, celle d'un ange de Dieu qui entre chez lui. Le seuil de la maison d'un païen est franchi. Et cette première transgression en induit une autre. L'ordre est donné à Corneille d'envoyer ses hommes dans la maison de Pierre. En acquiesçant, Corneille franchit la règle de séparation entre juifs et non-juifs. Dans la suite de ce récit, la difficulté centrale sera de faire entrer Pierre, qui respecte ces règles de séparation, dans la maison de Corneille. Il faudra une intervention de l'esprit pour que Pierre accepte de se mettre en route et que la rencontre avec Corneille ait lieu. Nous tenons à nos frontières. Et il nous faut toute la détermination et l'aide de Dieu pour lâcher prise, traverser, franchir. Du point de vue du temps et de l'espace, la transgression marque en effet une nouvelle posture. Celle de ne plus attendre, de franchir le pas. Les voies de la raison, la sagesse humaine, ne peut qu'observer ce dépassement sans retour. Vincent Estellon, dans son éloge de la transgression, écrit « Il y a dans la transgression quelque chose d'exubérant, quelque chose de l'ordre de la pulsion de vivre, du vivant, projeté dans le futur. Transgresser, c'est Abraham quittant la famille de son père. C'est Einstein refusant de se contenter des lois de l'électromagnétisme. C'est Monet cherchant à peindre des impressions. C'est James Joyce balayant les lois du roman. Et tant d'autres, aussi célèbres ou plus modestes, ayant transgressé diverses règles scientifiques, artistiques, politiques, sociales pour faire avancer le monde. Corneille, à l'écoute de l'ange, entend ce qu'il n'avait jamais osé espérer. Tes prières et tes largesses sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. La mémoire de Dieu n'est pas réservée à quelques-uns. La grâce de Dieu n'est pas réservée à un peuple. La protection de Dieu n'est pas réservée à quelques privilégiés. Le ciel est ouvert. Le cœur de Dieu est assez grand pour tous ceux et toutes celles qui veulent y loger. Après cette annonce de l'ange, la perception qu'a Corneille de Dieu ne peut qu'avoir évolué. Il faudra un peu de temps à Pierre, le très respectueux des règles, déjà placé hors de sa zone de confort, comme l'on dirait aujourd'hui, puisqu'il est logé chez un tanneur, une activité considérée comme hautement impure par le contact répété avec les dépouilles animales et le sang. Corneille reçoit l'ordre de l'envoyer chercher pour qu'une rencontre ait lieu. Peu importe donc d'où l'on vient et de quelle manière on pratique. Nos barrières, Dieu travaille à les faire voler en éclats. Pour nous faire faire un pas de côté, accepter le léger déséquilibre nécessaire à la marche, pour nous faire sortir du cadre, pour nous faire peut-être aussi descendre du socle et bientôt de la chair. L'important dans ce mouvement est de respecter Dieu sans vouloir l'annexer et de pratiquer la justice qui se récapitule dans l'amour. Amen.